Chapitre 11. L'analogie qu'on remarqua dans ces divers attentats fit présumer qu'il avait existé des relations entre leurs auteurs, quoiqu'ils fussent de partis différents. Il n'y eut d'analogie que celle d'une haine commune qui les portait à conspirer contre les mêmes obstacles, ni d'autre rapport que ceux d'une exploration clandestine qui fit connaître aux royalistes le terrible instrument dont voulaient se servir les Jacobins pour faire périr Bonaparte. Sans doute assez de sang venait d'être versé pour porter la terreur dans l'âme de ses ennemis, et désormais on pouvait le regarder comme affermi dans sa puissance. Il avait pour lui tous ceux qui l'entouraient. La fortune, d'ailleurs, tout en semblant veiller sur lui, acheva de le combler de ses faveurs dans les jeux de la guerre. Ses armées d'Allemagne, commandées par Moreau, avaient repris les armes à l'expiration de l'armistice, et Moreau, poursuivant ses succès, venait de gagner la bataille d'Ohrleben. Là, sur le théâtre de sa gloire, il s'était décrié en s'adressant à ses généraux « Mes amis, nous avons conquis la paix !» En effet, en moins de 20 jours, il s'empare de 80 lieues de terrain fortement disputé, franchit les lignes formidables de Lin, de la Salza, de la Trône, de Lens, pousse ses avant-postes à 20 lieues de Vienne, disperse les seules troupes qui pouvaient en défendre les approches et, arrêté par la politique ou par l'envie, conclut à Steyr un nouvel armistice. Convaincu de la nécessité des circonstances, le cabinet de Londres consentit à ce que l'Autriche, se désistant des conditions de l'alliance, ouvrit des négociations par une paix séparée, ce qui fit dire que Bonaparte avait triomphé pour lui seul et Moreau pour la paix. Tels furent les premiers germes de rivalité semés entre ces deux grands capitaines. La différence de caractère et le reste de l'esprit républicain devaient les amener tôt ou tard à une opposition ouverte. Cet esprit se décela dans la capitale et y causa une sorte de fermentation au sujet du projet de loi portant établissement d'un tribunal criminel spécial partout où cette institution serait jugée nécessaire. À vrai dire, il s'agissait d'une commission indéfinie, mi-partie de juges et de militaires. Ce projet, présenté au tribunat, effaroucha tous les tribuns qui aimaient la liberté. Dans leur idée, ils assimilèrent cette mesure à une justice prévôtale de l'Ancien Régime. Les orateurs du gouvernement alléguaient que l'ordre social était attaqué dans ses fondements par une organisation du crime plus puissante, plus étendue que les lois. Les lois, disaient-ils, ne sont plus en rapport avec cette frange de la société qui ne veut aucune justice et qui combat à outrance le système social. La discussion fut savante et animée. Elle remplit 7 séances. Isnard, Benjamin Constant, Daunou, Chénier, Guinguenet, Bayeul s'y montrèrent comme l'arrière-garde de la République, combattant avec force, mais avec mesure et décence, la proposition du gouvernement. Elle ne passa qu'à la majorité d'un petit nombre de voix et à l'aide de l'influence du cabinet. Le projet était terminé par la faculté laissée au consul d'éloigner de la ville où siégeaient les autorités premières et même de toute autre ville les personnes dont la présence pouvait devenir suspecte. Ceci forma la dictature de la police et l'on ne manqua pas de dire que j'allais devenir le ségent du nouveau Tibère. Tout ce que demanda le premier consul fut accordé. Revêtu d'une dictature légale armée du pouvoir de frapper de mort et d'exil ses ennemis, le premier consul faisait appréhender que son gouvernement n'eut bientôt plus d'autre mobile que la force. Mais il donna la paix au monde, talisman qui dissipa bien des nuages en offrant un port tranquille après les tempêtes. Le congrès de Lunéville amena au bout de 40 jours le traité de paix définitif signé le 9 février 1801 entre la France et l'Autriche. La possession de toute la rive gauche du Rhin, depuis le point où elle quitte le territoire helvétique jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave, fut confirmée à la France. L'Autriche resta en Italie avec l'ancien territoire vénitien, l'Adige lui servit de limite, l'indépendance des républiques bataves, helvétiques, cisalpines et liguriennes fut mutuellement garantie. Le premier consul avait pris tellement ombrage de l'opposition qui s'était déclarée dans le tribunat contre la marche de son gouvernement qu'ils l'ont puni en ne faisant à l'orateur du tribunat aucune réponse à l'occasion de la paix de Lunéville. Il restait d'autres points à régler en Italie, d'où Masséna avait été rappelé pour suspicion de républicanisme. Depuis le mois d'août précédent, il était remplacé par Brune, d'abord suspect lui-même au camp du dépôt de Dijon, et que j'étais parvenu à faire rentrer en grâce en atténuant de certaines révélations, car chaque état-major était épié. Quoi qu'il en soit, Brune s'était emparé de la Toscane, avait confisqué Livourne et toutes les propriétés anglaises. Sur les instances de l'empereur Paul, et par déférence pour sa médiation, Bonaparte, qui méditait alors la conquête des deux Siciles, arrêta la marche de Murat sur Naples et ménagea le Saint-Siège. Survint aussitôt un traité de paix avec Naples, en vertu duquel, jusqu'à la paix définitive entre la France, la Grande-Bretagne et la porte ottomane, 4 000 Français occupèrent la Bruse septentrionale et 12 000 la péninsule d'Otrante. C'est moi qui en avais donné la première idée dans un conseil privé. Ces stipulations restèrent secrètes. Par cette occupation de la Bruse, de Tarente et d'Effort, la France faisait entretenir, aux frais du royaume de Naples, un corps d'armée qui, selon l'occasion, pouvait passer en Égypte, dans la Dalmatie ou en Grèce. Le traité de Lunéville avait stipulé pour l'Autriche et pour l'Empire germanique. Il fut ratifié par la Diète et c'est ainsi que la paix fut rétablie sur le continent européen. Dans toute cette affaire, le premier consul parut charmé de la dextérité de son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand Périgord. Mais au fond, il commençait à être fatigué de ce que les gazetiers de Londres le représentaient lui-même comme étant sous la tutelle diplomatique de Monsieur de Talleyrand. Et en fait de gouvernement sous la mienne, ne pouvant faire un pas sans nous, dont on exagérait à dessein l'habileté afin de nous rendre odieux ou suspects. Je le fatiguais moi-même en ne cessant de lui dire que, lorsque les gouvernements ne sont pas justes, leur prospérité n'est que passagère, que, dans la sphère élevée où l'avait placée la fortune, il lui fallait noyer dans les torrents de sa gloire les passions haineuses qu'une longue révolution avait mises en fermentation et ramener ainsi la nation à des dispositions généreuses et bienveillantes, vraies sources de prospérité et de bonheur public. Mais comment se flatter, au sortir d'une longue tourmente, d'avoir à la tête d'une immense république, transformée en dictature militaire, un chef à la fois juste, fort et modéré? Le cœur de Bonaparte n'était pas étranger à la vengeance et à la haine, ni son esprit à la prévention, et l'on apercevait aisément, à travers les voiles dont il se couvrait, un penchant décidé à la tyrannie. C'était précisément cette disposition que je m'efforçais d'adoucir ou de combattre, et je n'y employais jamais que l'ascendant de la vérité ou de la raison. J'étais sincèrement attaché à cet homme, persuadé que nul, dans la carrière des armes, ni dans l'ordre civil, n'avait un caractère si ferme, si persévérant, tel enfin qu'il le fallait pour régir l'État et comprimer les factions. J'osais même alors me flatter de mitiger ce grand caractère en ce qu'il avait de trop violent et de trop dur. D'autres avaient compté sur l'amour des femmes, car Bonaparte n'était point insensible à leur charme. D'ailleurs, on pouvait être sûr que les femmes ne prendraient jamais sur lui un ascendant nuisible aux affaires. Le premier essai dans ce genre ne fut pas heureux. Frappé à son dernier passage à Milan de la beauté théâtrale de la cantatrice Grassini et plus encore des sublimes accents de sa voix, il lui fit de riches présents et voulut se l'attacher. Il chargea Berthier de conclure avec elle un traité sur de larges bases et de la lui amener à Paris. Elle fit le voyage dans la voiture même de Berthier. Assez richement dotée, à 15 000 francs par mois, on la vit briller au théâtre et au concert des Tuileries où sa voix fit merveille. Mais alors le chef d'État évitait tout scandale et, ne voulant donner à Joséphine, jalouse à l'excès, aucun sujet d'ombrage, il ne faisait à la belle cantatrice que des visites brusques et furtives. Des amours sans soin et sans charme ne pouvaient satisfaire une femme altière et passionnée qui avait dans l'esprit quelque chose de viril. La Grassini eut recours à l'antidote infaillible, elle s'enflamma vivement pour le célèbre violon Rhodes. Épris lui-même, il ne sut pas garder de mesure, bravant la surveillance de Junot et de Berthier. Un jour que, dans ces entrefaites, Bonaparte me dit qu'il s'étonnait qu'avec mon habileté reconnue, je ne fisse pas mieux la police et qu'il y avait des choses que j'ignorais. « Oui, répondis-je, il y a des choses que j'ignorais, mais que je sais maintenant. Par exemple, un homme d'une petite taille, couvert d'une redingote grise, sort assez souvent par une porte secrète des Tuileries, à la nuit noire et accompagné d'un seul domestique. Il monte dans une petite voiture borgne et va furetant la signora Grassini. Ce petit homme, c'est vous, à qui la bizarre cantatrice fait des infidélités en faveur de Rode le violon. » À ces mots, le consul, tournant le dos et gardant le silence, sonna, et je me retirai. Un aide-de-camp fut chargé de faire l'eunuque noir auprès de l'infidèle qui, indigné, refusa de se soumettre au régime du sérail. On la priva d'abord de son traitement et de ses pensions, croyant la réduire ainsi par famine, mais, éprise de Rode, elle resta inflexible et rejeta les offres les plus brillantes de Pilate Berthier. On la força de sortir de Paris, elle se réfugia d'abord à la campagne avec son amant, puis tous les deux s'évadèrent et allèrent retrouver la fortune en Russie. Comme on prétendait que la guerre était l'unique élément du premier consul, je le poussai à montrer au monde qu'il saurait, au besoin, gouverner un empire dans le calme et au milieu de toutes les jouissances des arts de la paix. Mais il ne lui suffisait pas de pacifier le continent, il lui fallait désarmer l'Angleterre. Ancienne rivale de la France, elle était notre ennemie acharnée depuis que l'élan de la Révolution nous avait donné une puissance colossale. Vu l'état de l'Europe, la force et la prospérité des deux pays rapprochés par les liens de paix semblaient incompatibles. La politique du premier consul et de son conseil privé rechercha d'abord la solution de cette question grave. Faut-il forcer l'Angleterre à la paix avant d'établir, au-dedans et au-dehors, un système pacifique? L'affirmative fut décidée par la nécessité et par la raison. Sans la paix générale, toute autre paix devait être regardée comme une suspension d'armes. On en vint, comme après Campo Formio, à menacer le Royaume-Uni d'une invasion, ce qui préoccupa nos imaginations mobiles et variables. Des camps furent formés et occupés par de nombreuses troupes d'élite sur nos côtes opposées à l'Angleterre. Une flotte combinée fut réunie à Brest sous pavillon français et espagnol. On s'efforça de rétablir notre marine et le port de Boulogne devint le principal rendez-vous de la flottille destinée à effectuer la descente. Telle fut notre chimère. De son côté, l'Angleterre fit les plus grands préparatifs, surveillant tous nos mouvements, bloquant nos ports, nos rades et hérissant ses côtes. Elle avait alors un sujet d'alarme. Je veux parler de la Ligue du Nord, formée contre sa prépotence maritime et dont l'empereur Paul s'était déclaré le chef. Son objet direct, hautement annoncé, était d'annuler le code naval soutenu par l'Angleterre, en vertu duquel cette puissance s'arrogeait l'Empire des mers. On sent combien le premier consul dut se complaire à imprimer sa politique, toute son activité et son jeu, pour tâcher de donner de la vie à cette ligue maritime dont Paul Ier était l'âme. Tous les mobiles du cabinet furent mis en mouvement, soit pour captiver Paul, soit pour engager la Prusse, soit pour exaspérer le Danemark et amener la Suède sur le champ de bataille. La Prusse mise en mouvement ferma les embouchures de l'Elbe, du Weser et de l'Ems. Elle prit possession du territoire hanovrien. L'Angleterre comprit que l'objet de la querelle ne pouvait plus se décider que par les armes. Tout à coup, les amiraux Hyde Parker et Nelson partirent pour la Baltique avec une armée navale formidable. En vain, le Danemark et la Suède font des préparatifs pour garder le passage de Sund et défendre les approches de Copenhague. Le 2 avril se livre la terrible bataille de Copenhague où l'Angleterre triomphe de tous les obstacles maritimes qu'on lui oppose. 11 jours auparavant, le palais impérial de Saint-Pétersbourg avait été le théâtre d'une catastrophe qui, à elle seule, eût changé la face des affaires dans le Nord. Le 22 mars, l'empereur Paul, monarque capricieux et violent, parfois d'un despotisme poussé jusqu'à la démence, fut précipité du trône par le seul mode de déposition praticable dans une monarchie despotique. Je reçus par estafette d'un banquier étranger la première nouvelle tragique de cet événement. Je courus aux Tuileries, où je trouvai le premier consul, dont le courrier du Nord venait aussi d'arriver, tenant et tordant sa dépêche, et se promenant par soubresauts d'un air hagard. « Quoi ? S'écria-t-il, un empereur n'est pas même en sûreté au milieu de ses gardes ?» Pour tâcher de le calmer, quelques-uns de mes collègues, moi et le consul Cambacérès, lui dirent que si tel était le mode de déposition adopté en Russie, heureusement, le midi de l'Europe était étranger à des habitudes et à des attentats si perfides. Mais aucun de nos raisonnements ne parut le toucher. Sa perspicacité en aperçut le vide, eu égard à sa position et au danger qu'il avait couru en décembre. Il s'exhalait en cris, en trépignements, en courts accès de fureur. Jamais je ne vis de scène plus frappante. Au chagrin que lui avait causé l'issue de la bataille de Copenhague, se joignait la douleur poignante que lui faisait ressentir le meurtre inopiné du puissant potentat dont il s'était fait un allié et un ami. Aussi, le désappointement politique ajoutait encore à ses angoisses. C'en était fait de la Ligue du Nord contre l'Angleterre. La mort tragique de Paul Ier inspira des idées sombres à Bonaparte et accrut ses dispositions soupçonneuses et méfiantes. Il ne rêva que complot dans l'armée, destitua et fit arrêter plusieurs officiers généraux, entre autres Humbert, que j'eus quelque peine à soustraire à des rigueurs inflexibles. Dans le même temps, un délateur rendit suspectes les intentions de Bernadotte et le compromit gravement. Depuis près d'un an, Bernadotte commandait l'armée de l'Ouest et tenait son quartier général à Rennes. Il n'y avait eu rien à dire sur ses opérations, toujours sages et mesurées. L'année précédente, pendant la campagne de Marengo, il avait empêché un débarquement à Quiberon, et les départements de l'Ouest continuaient à montrer la soumission la plus complète. À plusieurs reprises, on avait pris l'occasion de quelques propos républicains échappés dans son état-major pour exciter contre lui la défiance du premier consul. Tout à coup, il fut inopinément rappelé et tomba dans la disgrâce. Tout ce qu'on put démêler, car la dénonciation arriva directement au cabinet du premier consul, c'est que le délateur signala le colonel Simon comme ayant divulgué par imprudence un plan d'insurrection militaire contre le chef du gouvernement. Plan chimérique, puisqu'il s'agissait de marcher sur Paris pour renverser le premier consul. On supposa qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce prétendu complot et qu'il n'était pas isolé, qu'il tenait à une conjuration républicaine à la tête de laquelle on plaçait naturellement Bernadotte et qui étendait ses ramifications dans toute l'armée. Il y eut plusieurs arrestations et tout l'état-major de Bernadotte fut désorganisé, mais sans trop d'éclat. Par-dessus tout, Bonaparte voulait éviter la publicité. « L'Europe, me dit-il, doit savoir qu'on ne conspire plus contre moi. » Je mis une grande réserve dans tout ce qui me fut renvoyé au sujet de cette affaire plus militaire que civile, et ne tenant à mes attributions que par de faibles points de contact. Mais je fis donner à Bernadotte, que je m'abstins de voir, des directions utiles et dont il me sut gré. Peu de temps après, Joseph Bonaparte, son beau-frère, ménagea sa réconciliation avec le premier consul, c'était la seconde depuis le 18 Brumaire. D'après mes conseils, Bonaparte s'efforça de se l'attacher par des faveurs et des récompenses bien méritées de la part d'un homme d'État si distingué et d'un général si habile. Le tourbillon des affaires et la marche de la politique extérieure firent heureusement diversion à toutes ces tracasseries de l'intérieur. Le nouvel empereur de Russie, se déclarant pour un autre système, fit d'abord mettre en liberté tous les marins anglais prisonniers, et une convention fut signée à Saint-Pétersbourg entre Lord Helens et les ministres russes, qui ajusta bientôt tous les différends. En même temps, le tsar donna au comte de Marcof des pleins pouvoirs pour négocier avec le premier consul et ses alliés. On voyait clairement que les cabinets inclinaient à un système pacifique. Déjà l'Angleterre, qui vers la fin de 1800 et au commencement de 1801 s'était vue engagée dans une nouvelle querelle pour le maintien de ses droits maritimes, tout en ayant à combattre à elle seule la puissance de la France, semblait abjurer son système de guerre perpétuelle contre notre Révolution. Cette transition politique s'était en quelque sorte opérée par la retraite du célèbre Pitt et par la dissolution de son ministère belligérant. Dès lors, on considéra comme possible la paix entre le cabinet de Saint-James et celui des Tuileries. elle fut accélérée par les résultats des deux expéditions rivales en Portugal et en Égypte. La mission de Lucien à Madrid avait eu aussi un but politique. La déclaration de guerre au Portugal par l'Espagne, à l'instigation du premier consul, qui regardait avec raison le Portugal comme une colonie anglaise, l'ascendant de son frère sur l'esprit de Charles IV et de la reine d'Espagne fut sans borne. Tout marcha dans les intérêts de notre politique. Au moment où une armée espagnole s'emparait de l'Alentejo, une armée française sous les ordres de Leclerc, beau-frère de Napoléon, entrait au Portugal par Salamanque. Dans sa détresse, la cour de Lisbonne crut trouver son salut en prodiguant ses trésors aux envahisseurs. Elle ouvrit les négociations directes avec Lucien et le 6 juin, les préliminaires de la paix furent signés à Badajoz, moyennant un subside secret de 30 millions qui furent partagés entre le frère du premier consul et le prince de la paix. Telle fut la source de l'immense fortune de Lucien. Le premier consul, qui voulait occuper Lisbonne, fut d'abord outré, menaçant de rappeler son frère et de ne pas reconnaître la stipulation de Badajoz. Talleyrand et moi, nous lui fîmes sentir les inconvénients qui résulteraient d'un pareil éclat. Talleyrand puisa ses motifs en faveur des bases de traité dans l'intérêt de notre alliance avec l'Espagne, dont la position heureuse où nous nous placions pour en venir à un rapprochement avec l'Angleterre, qui, exclu des ports du Portugal, serait empressé d'y rentrer. Il proposa très adroitement des modifications au traité. Enfin, le sacrifice des diamants de la princesse du Brésil et l'envoi fait au premier consul de 10 millions pour sa caisse particulière fléchirent sa rigidité au point qu'il laissa conclure à Madrid le traité définitif. De leur côté, les Anglais venaient d'opérer un débarquement en Égypte pour nous arracher cette possession et dès le 20 mars, le général Menou avait perdu la bataille d'Alexandrie. Le Caire et les principales villes d'Égypte étaient tombées successivement au pouvoir des Anglo-Turcs. Enfin, Menou lui-même capitula le 7 août et se vit forcé d'évacuer Alexandrie. Ainsi s'évanouit ce magnifique projet du Directoire de faire de l'Égypte une colonie française et le projet encore plus romanesque de Bonaparte de recommencer par là un empire d'Orient. La guerre entre l'Angleterre et la France étant dès lors sans objet qui valut la peine de prolonger la lutte, chacun des deux pays étant assez fort dans ses bases pour que l'un eût à lui seul la puissance d'effectuer aucun changement essentiel dans la condition de l'autre, des préliminaires de paix furent signés à Londres, le 1er octobre, entre M. Otto et Lord Hawkesbury. La nouvelle en fut reçue avec des signes extraordinaires de joie par chacune des deux nations. Il n'existait plus aussi de mésintelligence entre la France et la Russie, le premier consul n'ayant rien négligé pour captiver le fils et le successeur de Paul Ier. Le plénipotentiaire russe, M. de Marcof, usant de ses pleins pouvoirs immédiatement après les préliminaires de Londres, signa la paix définitive entre le tsar et le consul en attendant la conclusion d'un nouveau traité de commerce. Ce rapprochement opéré entre la France et la Russie fut un coup de parti pour le premier consul. À dater de cette époque heureuse commença au-dedans et au-dehors cette extension de puissance dont il n'abusa que trop depuis. Ce ne fut pas néanmoins sans éprouver au sujet de son traité avec la Russie quelques contrariétés dans l'intérieur. Communiqué au tribunat où siégeaient les républicains les plus prononcés, ce traité fut envoyé à une commission chargée de l'examiner et de rendre compte. Dans son rapport, elle déclara que le mot « sujet » qu'on y employait avait excité la surprise en ceux qui ne s'accordaient pas avec l'idée qu'on avait conçue de la dignité de citoyen français. Il fallut débattre le traité dans des conférences particulières et les tribuns n'en persistèrent pas moins à trouver le mot « sujet » inconvenant, sans prétendre toutefois que ce fût un motif suffisant pour rejeter le traité. Dans le conseil privé qui eut lieu le soir même, nous eûmes beaucoup de peine à calmer le premier consul, qui, dans cette difficulté suscitée par le tribunal, vit l'intention de dépopulariser et de porter atteinte à son pouvoir. Je lui représentai avec quelque énergie, après avoir résumé l'état de l'opinion dans la capitale, qu'il importait de ménager encore les restes de l'esprit républicain par une déférence apparente. Il finit par se rendre à mes raisons. Le conseiller d'État Fleurieu alla donner au tribunal des explications dans une note sortie du cabinet même du premier consul, dans laquelle il déclarait que dès longtemps le gouvernement français avait abjuré le principe de dicter aucun traité et que la Russie, ayant paru désirer la garantie réciproque des deux gouvernements contre les troubles extérieurs et intérieurs, il avait été convenu que ni l'un ni l'autre n'accorderait aucune espèce de protection aux ennemis de l'autre État. Et que c'était pour arriver à ce but qu'avaient été rédigés les articles où le mot « sujet » était employé. Tout parut aplani et le traité fut approuvé par le corps législatif. Donna lieu dans le cabinet à un incident plus grave qui excita au plus haut degré le courroux du premier consul. Dans les articles secrets du traité, les deux puissances contractantes se faisaient réciproquement la promesse d'arranger, d'un commun accord, les affaires d'Allemagne et d'Italie. On sent combien il importait à l'Angleterre d'avoir promptement à sa connaissance la preuve certaine de l'existence de ce premier chaînon de la diplomatie continentale qui rapprochait à son détriment les intérêts politiques des deux plus grands empires de l'Europe et par là en devenaient tous deux les arbitres de son exclusion. Aussi, les articles secrets lui furent-ils vendus au poids de l'or et son cabinet, très généreux pour ces sortes de confidences, paya aux infidèles révélateurs la somme de 60 000 livres sterling. Instruit bientôt de ce brigandage diplomatique, le premier consul me mande aux Tuileries et commence par accuser à la fois la police et son ministère des Relations extérieures. La police comme incapable d'empêcher ou de découvrir les communications criminelles avec l'étranger, le ministère de M. de Talleyrand comme trafiquant des secrets de l'État. Je m'appuyais, dans ma défense, sur les intrigues de tous les temps qu'aucun pouvoir au monde ne pourrait se flatter d'empêcher, et quand je vis que les soupçons du premier consul se portaient trop haut, je n'hésitais pas à lui dire que j'avais lieu de croire, d'après mes informations, que le secret de l'État avait été inventé par M. R. L., homme de confiance de M. de Talleyrand, et ensuite livré et envoyé, soit directement en Angleterre, soit à M. le comte d'Entraigues, agent de Louis XVIII, par M. B. Lenné, l'un des propriétaires du journal Les Débats, ami particulier de M. R. L. J'ajoutais que j'avais de fortes raisons de croire que cet individu servait d'intermédiaire à la correspondance de l'étranger, mais que dans tous les temps il était difficile à la police d'échanger des données ou de simples indices en preuves matérielles, qu'elle ne pouvait que mettre sur la voie. Le premier mouvement du consul fut d'ordonner la traduction des deux prévenus devant une commission militaire. Je fis des représentations. De son côté, M. de Talleyrand allégua qu'on pouvait tout aussi bien soupçonner de cette infidélité le secrétaire de M. de Marcof ou peut-être même quelques commis de la chancellerie russe. Mais il n'y avait pas un assez long intervalle depuis la signature jusqu'à la divulgation pour qu'on pût supposer que le document eût passé à Saint-Pétersbourg avant d'arriver à Londres. Quoi qu'il en soit, M. R. L. reçut un ordre de bannissement et fut à Hambourg. M. B. Lenné fut plus maltraité en apparence, des gendarmes le déportèrent de brigade en brigade à l'île d'Elbe. Là, son exil fut singulièrement adouci. Je ne manquais pas, dans le cours de cette affaire, de rappeler au premier consul qu'autrefois, dans la haute diplomatie, il était passé en maxime qu'après 40 jours, il n'y avait plus aucun secret en Europe pour des cabinets dirigés par des hommes d'État. Ce fut sur cette base que depuis il voulut monter sa chancellerie diplomatique. Dans l'intervalle, le marquis de Cornwallis vint en France comme ambassadeur plénipotentiaire pour négocier la paix définitive. Il se rendit à Amiens, lieu fixé pour y tenir les conférences, mais le traité éprouva des lenteurs inattendues, ce qui n'empêcha pas le premier consul de suivre assidûment deux projets d'une haute importance, l'un sur l'Italie, l'autre sur Saint-Domingue. J'aurai l'occasion de parler du premier. Quant au second, dont Bonaparte regardait l'exécution comme la plus urgente, il avait pour objet de reconquérir la colonie de Saint-Domingue que les nègres armés occupaient en maître. Je ne partageais pas à cet égard les vues du Conseil privé ni du Conseil d'État où vint siéger mon ancien collègue et ami M. Malouet, homme d'un caractère honorable. Mais il voyait cette grande affaire de Saint-Domingue avec des préventions qui nuisaient à la rectitude de son jugement. Ces plans, principalement dirigés contre la liberté et la puissance des nègres, prévalurent en partie, et encore furent-ils gâtés par la maladresse et l'impéritie de nos états-majors. Je recevais de Sontonax, jadis si fameux à Saint-Domingue, sur les moyens d'y reprendre notre influence, des mémoires très bien faits et appuyés sur des raisonnements solides. Mais Sontonax était lui-même dans une telle défaveur qu'il n'y eut pas moyen de faire goûter ses idées au premier consul. Il me donna même l'ordre formel de l'exiler de Paris. Fleurieu, Malouet et tout le parti des colons l'emportèrent. On décida qu'après la conquête, on maintiendrait l'esclavage, conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789, et que la traite des Noirs et leur importation auraient lieu suivant les lois existantes à cette époque. On sait ce qui en est résulté, la perte de notre armement et l'humiliation de nos armes. Mais c'était au fond du cœur du premier consul qu'il fallait chercher la véritable cause de cette expédition désastreuse. À cet égard, Berthier et Duroc en savaient-ils plus que le ministre de la police? Mais pouvais-je un instant me méprendre? Le premier consul saisit avec ardeur l'heureuse occasion d'éloigner un grand nombre de régiments et d'officiers généraux formés à l'école de Moreau, dont la réputation le blessait et dont l'influence dans l'armée était pour lui, sinon un sujet d'alarme, au moins de gêne et d'inquiétude. Il y comprit également les officiers généraux qu'il jugeait ne pas être assez dévoués à sa personne et à ses intérêts, ou qu'il supposait encore attachés aux institutions républicaines. Les mécontents, qui ont toujours plus ou moins d'accès dans l'opinion publique, ne gardèrent plus aucune mesure dans leurs propos à ce sujet, et telles furent les rumeurs que mes bulletins de police en devinrent effrayants de vérité. « Eh bien, me dit un jour Bonaparte, vos jacobins prétendent méchamment que ce sont les soldats et les amis de Moreau que j'en vois périr à Saint-Domingue. Ce sont des fous hargneux, laissons-les jaboter. On ne gouvernerait pas si l'on se laissait entraver par les diffamations et par les calomnies. Tâchez seulement de me faire un meilleur esprit public. » Ce miracle, répondis-je, vous est réservé, et ce ne serait pas votre coup d'essai dans ce genre. Quand tout fut prêt, l'expédition, forte de 23 vaisseaux de ligne et portant 22 000 hommes de débarquement, mit à la voile de Brest pour aller réduire la colonie. On s'était assuré de l'assentiment de l'Angleterre car la paix n'était pas encore conclue. Avant la signature du traité définitif, Bonaparte mit à exécution le second projet qui le préoccupait. Il était relatif à la République cisalpine. Une consulte de Cisalpins à Lyon ayant été convoquée, il s'y rend lui-même en janvier 1802 et y est reçu avec beaucoup de pompe, tient la consulte et se fait élire président, non de la République cisalpine, mais de la République italienne, dévoilant ainsi ses vues ultérieures sur toute l'Italie. D'un autre côté, cette même république dont les traités avaient stipulé l'indépendance voit les troupes françaises s'établir sur son territoire au lieu de l'évacuer. Elle devient ainsi une annexe de la France, ou plutôt de la puissance de Bonaparte. En s'arrogeant la présidence de l'Italie, il avait autorisé la rupture des négociations. Mais il était à cet égard sans aucune crainte, sachant bien que le ministère anglais n'était pas en mesure, et s'appuyant d'ailleurs sur les stipulations secrètes concédées par la Russie. On était si généralement persuadé de la nécessité de la paix en Angleterre et de l'impossibilité d'obtenir de meilleures conditions par une lutte prolongée, que le 25 mars, Lord Cornwallis prit sur lui de signer le traité définitif, connu sous le nom de paix d'Amiens, qui termina une guerre de 9 années aussi sanglante que destructive. Il paraissait évident pour tout homme d'État que la situation dans laquelle on laissait Malte était la partie faible du traité. Je m'en étais expliqué sans détour dans le Conseil, mais les esprits y étaient dans une telle ivresse depuis la signature des préliminaires qu'on trouvait ma prévoyance intempestive et ombrageuse. Je vis pourtant, dans les débats du Parlement de la Grande-Bretagne, que l'un des hommes de cabinet les plus forts de ce pays envisageait sous le même point de vue que moi les stipulations relatives à la possession de Malte. En général, la nouvelle opposition des anciens ministres et de leurs amis regardait la paix comme une trêve dont la durée était incompatible avec l'honneur et la prospérité de la Grande-Bretagne. En effet, de toutes ses conquêtes, elle ne gardait que la Trinité et Ceylan, tandis que la France gardait toutes les siennes. De notre côté, d'ailleurs, la paix faisait triompher les principes de notre révolution qui se trouvaient affermis par l'éclat et l'attrait des succès. Or, c'est véritablement un coup de fortune pour Bonaparte. Mais pouvait-on se flatter qu'il n'en userait que pour le bonheur de la France? J'en voyais et j'en savais assez pour croire qu'il ne s'en réservait que pour perpétuer et fortifier son autorité. Il était clair aussi pour moi qu'en Angleterre, la classe éclairée de la nation, et en France, les amis de la liberté, ne voyaient qu'avec peine un événement qui semblait consolider à jamais le pouvoir du sabre.